Alors, Jésus arriva dans une localité de Samarie appelée Sichem. Là, il dit Sicar, Sichem. Il y avait là le puits de Jacob. Jacob avait été dans le nord, et alors qu'il s'occupait de ses troupeaux et qu'il restait un certain temps, il avait fait creuser un puits pour qu'ils aient de l'eau. Et c'était connu que c'était Jacob Israël a fait faire ce puits. Hein. Donc actuellement, c'est un lieu de pèlerinage. Jésus, fatigué du voyage, s'est assis au bord du puits, sur la margelle. Il était environ midi, donc le soleil tapant très fort. Dans la messe de Requiem, on dit, dans le Dies Irae, Dies Illa, Seigneur, vous qui vous êtes assis, lassés, en nous cherchant, hein, que tous ces efforts, et donc pas seulement la passion, mais il y a une évocation de la fatigue de Jésus qui s'assied sur le bord du puits de Jacob. Et, hein, que cela ne soit pas en vain. Lassus, hein, sedisti, sedisti lassus. Toi qui t'es assis là, fatigué. Une Samaritaine, une femme de Samarie, vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, de but en blanc, hein, je peux vous assurer, comme les apôtres verront, on ne parle pas à une femme, hein, seul à seul. C'est inconvenant. Et là, Jésus prend sur lui. Et non seulement il parle à cette femme, seul à seul, ça ne se fait pas, même dans la rue, même dans un puits, près d'un puits, un lieu public, on n'adresse pas la parole à une femme seule quand on est seul. Et il lui dit, donne-moi à boire. Alors, un juif qui demande à une femme d'un peuple mélangé, hérétique, moitié païen, de lui donner de l'eau, mais tout ce qui touche est impur, hein, c'est pas possible. Lors de la prière du repos du sabbat, les juifs ne devaient pas avoir de contact avec un païen, sinon ils étaient souillés. Ils ne devaient pas entrer dans la maison d'un non-juif, sinon ils ne pouvaient pas faire la prière du sabbat. Et donc, de recevoir de l'eau, en plus d'une femme, en plus d'une femme, si elle a ses épanchements menstruels, c'est épouvantable, c'est impur. Regardez les chauffeurs de bus qui ne veulent pas monter après qu'une femme se soit assise. Si vous avez un chauffeur féminin dans un bus, elle part, vous avez un chauffeur masculin très observant des règles islamiques. Il ne veut pas s'asseoir. Le siège est impur. Oui. Donc là, on se dit, waouh, heureusement que le Christ nous a libérés de ces règles. Et là, il lui dit, donne-moi à boire. Bah, d'un autre côté, c'est aussi patriarcal, hein, c'est un homme, il est là, il est assis sur la margelle. Tiens, viens, va me puiser de l'eau, quoi. Descends le seau, remonte-le. C'est pas d'une galanterie délirante, hein, non plus. Mais donne-moi à boire. Qu'un juif demande ça à une samaritaine, c'est incroyable. Ses disciples, en effet, étaient partis pour la ville afin d'acheter des provisions. Donc il était tout seul. La samaritaine lui dit, comment, toi, juif, tu me demandes à boire, à moi, samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit. Donc, elle dit, tu te moques de moi. Enfin, pourquoi tu m'adresses la parole, tu me demandes ça? C'est pour m'humilier, c'est pour refuser l'eau après que je l'ai puisée, me la jeter au visage. Si tu connaissais le don de Dieu, il demande à boire et après, pouf, il part. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné une eau vive. Vous voyez, ce qui est très délicat de la part de Dieu, c'est qu'il nous demande de lui donner de l'eau. C'est-à-dire que notre petit eau, hein, notre petit verre d'eau, nos petits mérites, Dieu nous les demande. Il est la source, il est le fleuve, et il demande à un ruisseau de lui donner de l'eau. Il est l'océan, et il demande à un ruisseau de lui donner de l'eau. Quel amour! Et donc, il lui dit, j'aurais pu t'en donner. Si tu savais que je suis l'océan, je pourrais te donner de l'eau. Et là, elle est émue parce que, d'abord, il lui parle de merveilleuse relation avec Dieu, d'une belle religion, et avec beaucoup de respect. Alors la femme lui dit, Seigneur, c'est-à-dire Monsieur. Monsieur, en français, c'est mon sire. Sire. Seigneur. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Donc là, elle inverse les rôles, hein, puisque Jésus inverse les rôles, donc elle rentre dans cette inversion. Elle dit, mais comment tu m'aurais donné de l'eau? Moi, j'ai ma cruche, mais... Et toi, tu n'en as pas. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits dont il a bu l'eau lui-même, aussi bien que ses fils et ses troupeaux? Et elle aussi, elle monte en niveau. Hein. Elle dit, moi je suis quand même de religion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Israël. Vous dites qu'on est des hérétiques, mais moi je me revendique de Jacob. Je suis quand même du peuple de Jacob. Oh, ben t'es un peu mélangé hein, avec les païens qui sont venus d'Assyrie et de Babylonie, hein, quand même. Non, notre père Jacob. C'est comme lorsqu'on fait des reproches à un protestant. Il dit quand même, les sacrements, la confession, Jésus hostie. Ah oui, mais arrêtez, on est quand même chrétien. Oui, vous êtes chrétien, mais il vous manque un peu quelque chose. J'ose le dire, hein, avant d'être suspendu, coupé en morceaux. Quiconque, lui répondit Jésus, boit de cette eau, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Après la mort, la vie éternelle, sans maladie, sans mort, sans péché, le bonheur. Et là, elle comprend que c'est mystique. La femme reprit, « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Et là, elle retombe un peu au niveau du plancher des vaches, et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et là, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Comme quoi, hein, Jésus aime bien le mariage et la famille. Faites attention au concubinage et à tout ce qui est en dehors du mariage. Hein. C'est beau de lui dire, « Va chercher ton mari. » Et là, elle lui dit humblement, « Je n'ai pas de mari. » C'est une concubine, cette femme. Elle ne s'est jamais mariée. Et Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu cinq, sous-entendu cinq hommes, hein, pas cinq maris, hein, véritablement. Et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. En cela, tu dis vrai. » On était en stratosphérique, le don de Dieu, l'eau jaillissante. Et là, il lui dit, ma chère amie, tu es adultère ou fornicatrice, ça va pas, t'as pas de mari. Mais Tu le reconnais, tu dis vrai. Donc un peu de morale quand même, hein, bon, pas, ça peut. Mais comme il lui a parlé avec tellement de respect et d'amour jusqu'à présent, et là, elle, ouf, elle repart en l'air, avec son catéchisme, comme un taxi musulman, qui le connaît par cœur. Ah oui, pour un musulman, Jésus, il est prophète, il reviendra pour terrasser le Dajjal, l'antéchrist, et Mariam est, Myriam est la femme la plus importante du Coran, à égalité avec Fatima, la fille du prophète, je crois. C'est une sainte femme, très grande, très sainte femme, la mère virginale du prophète Jésus. Elle dit, oui, il était plus que prophète Jésus, il était le fils de Dieu. Oh, comment vous associez à Dieu un homme? Parce qu'il l'a voulu. Et il a été crucifié. Ah, ben non, 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 il y a un ange qui s'est substitué à lui. Et il est ressuscité. Ben non, puisqu'il n'a même pas été crucifié. Oh, bon. Bon, je vous fais pas payer la course quand même, hein, parce qu'on a parlé de Dieu. Bon.
À propos,
Alors, la femme répond, je vois que tu es un prophète. Pourquoi elle dit ça? Et parce qu'il lui a révélé sa vie. Et puis peut-être que tout le monde croit qu'elle en a eu trois ou deux. Elle en a eu cinq. Et c'est son sixième. Et c'est son sixième. Chut, et c'est son sixième. Et elle a compté. Mais les autres ne doivent pas le savoir, apparemment, puisqu'elle considère que Jésus connaît des choses, comment dire, cachées, des connaissances cachées, ou que Dieu seul connaît. Tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, au mont Garizim. On avait reconstruit un temple avec le veau Apis, le veau d'or, pour que les Juifs du Nord ne descendent pas à Jérusalem pour pas prier auprès de l'Arche d'Alliance, pour diviser le peuple. Et tu dis, toi, Juif, par rapport à nous, à Samaritains, que c'est Jérusalem, le lieu où il faut adorer. Alors, dis-nous, Jésus dit, femme, crois-moi. L'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est peut-être la raison pour laquelle mon pèlerinage, mon voyage d'études et mon pèlerinage à Jérusalem, du 14 mars au 24 mars, a été annulé à cause du coronavirus. Je suis tellement attaché à cet évangile de la Samaritaine que Jésus m'a pris au mot et dit, puisque c'est pas important d'aller à Jérusalem, ben, tu n'iras pas. Et comme moi, je suis extrêmement sensible à cette parole merveilleuse de Jésus, que c'est ni là, ni ici, ni quoi que ce soit, c'est là où Jésus se trouve. Jésus se trouve dans la grâce, et donc dans notre âme, avec le Père et l'Esprit Saint, et Jésus se trouve dans l'hostie. Donc Jérusalem, c'est le tabernacle. Jérusalem, c'est vous. Vous êtes le temple de Dieu quand vous êtes en état de grâce. Et alors là, ils ont coupé. C'est pas bien ça. Parce que Jésus dit avant, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que, clac, elle dit à la Samaritaine, vous êtes hérétique. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est-à-dire que les Juifs vont être privés du monopole de la religion. Et leur religion va être diffusée à tous les peuples. Et un certain nombre de Juifs vont être jaloux. Et c'est ce que dit saint Paul, hein. Dieu les a rendus jaloux en donnant leur foi à des Romains, à des Scythes, à des Espagnols, à des Saxons, à des Angles, hein, à des Slaves, à des Peuls, à des Pygmées, à des Aborigènes, à des Incas, à des Aztèques, à tous ces peuples de tous les continents et qui n'avaient pas l'histoire biblique. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, dans le monde entier et plus seulement à Jérusalem, encore moins en Samarie au mont Garizim. Alors, là, c'est magnifique. Hein. Elle était quand même, avant d'avoir une vie un peu dissolue au point de vue des mœurs, hein, elle était assidue au catéchisme, hein, c'est pas possible. Hein. Et voilà ce qu'elle dit. Je sais que le Messie doit venir. C'est comme un taxi musulman. Oui, Jésus va revenir. Lorsqu'il sera venu, il nous fera tout connaître. Elle lui tend une perche de 5 mètres de long. Une perche olympique. Et là, Jésus prend la perche. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Ça va faire presque un an qu'il dit à tout le monde de pas dire qu'il est le Messie, de pas dire qu'il y a eu un miracle et tout. Et à cette femme qui est une Samaritaine, il a pas dit à ses apôtres aussi clairement qu'il est le Messie. Hein. Sauf quand même quand il a dit à Nicodème, au moment du choix des apôtres, c'est vrai quand même. Nicodème est là, il dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bien de Nazareth ? Et Jésus lui dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de mensonge. Mais d'où tu me connais ? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Être sous le figuier, pour un pharisien, c'est méditer la parole de Dieu. Donc il a eu une vision, ou alors il méditait Ézéchiel. Et donc, il a dit, vous êtes le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond devant Simon, André, Jacques, Jean et peut-être deux autres. Tu crois alors que je t'ai vu sous le figuier. Vous verrez des choses plus extraordinaires encore. Vous verrez le Fils de l'homme et avec les anges de Dieu monter et descendre autour de lui. C'est la vision d'Ézéchiel, c'est la nuée du désert, c'est Dieu. Quand il dira la même chose devant le grand prêtre, il sera condamné à mort. Donc les apôtres, déjà, reçoivent des paroles très fortes. Mais là, il la donne à la Samaritaine, à une femme hérétique d'un peuple mélangé. Mais elle croit que le Messie va venir, que le Sauveur va venir. Donc, vous voyez, dans la religion samaritaine, il y avait des parcelles de vérité. C'est comme les musulmans, ils prient Dieu. Maladroitement peut-être, mais ils prient Dieu. Donc quand quelqu'un vous dit « il faut exterminer tous les musulmans, ils vont nous tuer jusqu'au dernier », vous dites ben, « on va peut-être leur donner la chance de les évangéliser avant. Est-ce qu'on va pas parler de Dieu ensemble un peu avant ? Avant que tous les journalistes nous disent de nous entretuer ?» Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que dès qu'on leur parle de Jésus, ils sont très sensibles à cela. Alors bien sûr, on leur a répété que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'est pas mort sur la croix, donc ça les gêne un peu. Mais quand ils voient un chrétien qui croit, ils sont étonnés. Ah, vous priez ? D'habitude, ils ne prient pas, les chrétiens. Mais ils vont pas à la salle de prière, ils vont pas à l'église. Nous, on y va, vous y allez pas. Il y a 3 pelés intondus chez vous. Avant, à Notre-Dame de Passy, il y avait 10 messes. Maintenant, il y en a 4 et... Ouais, elles sont pleines. Ah bah oui, forcément, de 10 à 4, Mais dans les années 50, il y avait 10 messes. Et elles étaient pleines. Eh bien, voyez-vous, ils disent, mais Jésus va revenir et il va terrasser l'Antéchrist, le Dajjal. Oui, oui, oui. Un peu incroyable. Eux, ils croient plus dans le retour de Christ que 90% des baptisés. Il y a un problème. Eh bien, Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Je suis le Messie. Et elle dit, on attend le Sauveur. Et alors, c'est pas bien parce qu'il continue pas. Elle part à la ville et dit, un homme m'a dit toute ma vie, les secrets de ma vie. Il m'a dit qu'on boirait de l'eau qui nous retirerait toute soif terrestre. Est-ce qu'il ne serait pas le Messie? Parce qu'il y avait quand même cette idée du Sauveur et du Messie venant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de, comment dire, c'était impressionnant. Donc ils vont voir Jésus. Vous avez des gens qui partent de la ville et qui vont au-devant de Jésus. Et ils l'interrogent et Jésus leur parle et leur dit, voilà, c'est la grâce. Eh bien, il leur parle si bien que la foule dit à la Samaritaine qui est présente, la foule, c'est-à-dire qu'on ne dit pas un tel ou un tel, la foule dit, nous n'avons plus besoin de ton témoignage. Nous savons qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. C'est quand même Saint Jean qui relève cette expression venant d'un peuple à moitié héritier de la religion d'Abraham et avec suffisamment d'éléments de vérité pour avoir la notion d'un Sauveur, d'un Messie. Nous croyons qu'il est le Sauveur du monde. Donc, plus de juifs, plus de samaritains, déjà. Boum. C'est invraisemblable. Voilà. Alors là, voyez-vous, moi, quand je lis ça, je demande à Dieu la grâce de ne jamais perdre la foi. Jésus chasse un démon. Page 77. Jésus est à Capharnaüm, sur le lac de Génézareth. C'est dans le nord, c'est la Galilée, c'est proche de la Samarie, et il y a quand même pas mal de mélanges, on appelle ça la Galilée des nations. Il y a beaucoup de peuples différents qui se sont mélangés, et ça n'a pas très très bonne réputation par rapport aux Juifs de Jérusalem qui sont là. Bon. Il se mit à prêcher le jour du sabbat. Le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la prière, le jour du recueillement, où il est interdit de faire plus de 1000 pas, il est interdit de travailler, il est interdit de cuisiner. Et les pharisiens avaient rajouté, il est interdit de guérir. Un médecin ne doit pas exercer son art le jour du Seigneur. C'est un petit rajouti typique des pharisiens. Et qui les énerve par rapport à Jésus, qui guérit, mais qui guérit par la grâce de Dieu quand même. Il n'est pas là en train de leur faire un clistère ou une saignée. Voyez. Et l'on était vivement frappé de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait en lui l'esprit d'un démon impur. Baphomet, en général. Et il se mit à vociférer d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Vous savez, les démons, jusqu'au bout, se poseront des questions sur la divinité du Christ. Ils l'entendent parler, mais qui c'est exactement? Le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, avant qu'Abraham fût « Je suis », Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Qu'est-ce que c'est? Et donc ils pousseront quand même les hommes à le tuer. Mais comme dans la vision d'Anne-Catherine Emmerich, peut-être, ou dans le film de Mel Gibson, La Passion, quand Jésus meurt, rend son âme à son père, vous avez Satan
tu comprends, mais seulement à ce moment-là. J'aurais jamais dû le faire mourir. Son innocence, la puissance et le poids de son innocence, les mérites infinis de l'agneau de Dieu. Ah ! Et alors, la fin du film, vous avez Lucifer qui est là, qui hurle, mais l'actrice, c'est pour faire un visage bizarre, hermaphrodite, hein, dans le film. C'est une femme rasée qui joue Satan. Et là, il hurle, il y a son manteau noir qui tombe, et il est là. Et il hurle, il est désemparé parce qu'il est vaincu. L'agneau de Dieu est immolé, c'est fini. Son règne est terminé. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais Jésus lui dit d'un ton menaçant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon, le projetant à terre devant tout le monde, sortit de l'homme sans lui faire aucun mal. Un autre moment, le possédé, je ne sais pas si... il était dans les cimetières, il hurlait depuis sa possession. Les parents étaient vraiment tristes et désolés. Et lorsqu'il le guérit, il écume et il tombe raide. Et là, tout le monde dit, waouh, c'est sûr, il est exorcisé, il est mort. Et là, il se relève. Et alors, les pharisiens et les sadducéens, ils disent, c'est au nom de Belzébul qu'il chasse les démons. Et Jésus leur dira, si Satan chasse Satan, tout royaume divisé contre lui-même va à sa perte. La stupeur alors les saisit tous, et ils se disaient les uns les autres, quelle parole ! Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent et lui obéissent. Page 78. Le paralytique de Capharnaüm. Jésus étant monté dans une barque, traversa le lac et entra dans la ville de Capharnaüm où il y allait souvent. Or voici que, mais à un moment donné ça s'est mal passé, et donc il y a eu une malédiction sur Capharnaüm. Il ne restera pas pierre de cette ville. Et de fait, un Capharnaüm, c'est une pièce en grand désordre. Et il reste, on ne sait plus où est la ville, tellement elle a été détruite. Alors on a, je crois, plus ou moins retrouvé des fondations profondes et la synagogue de Capharnaüm. Or voici que des gens lui apportaient un paralytique étendu sur une civière. Oh, il passe un peu vite. Comme il ne pouvait pas rentrer dans la maison dans laquelle Jésus parlait et qui était entouré par la foule, qui voulait entendre, il était dans une maison. Il n'arrive pas à entrer dans la maison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le toit, ils font un trou dans le toit et avec des cordes, ils descendent le paralysé pour que Jésus le touche et le guérisse. Alors voilà ce qui a été un peu omis dans cette Bible abrégée. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Quelques scribes dirent par deux vers eux, « Cet homme blasphème ! Un homme ne peut pas remettre les péchés. » Mais Jésus perçut leurs pensées. « Pourquoi faire en vous-même de méchantes réflexions ? Quel est donc le plus facile à dire ? Tes péchés te sont remis ? » ou de dire « Lève-toi et marche !» Là, ils sont pétrifiés. « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, et qu'il est donc Dieu. « Lève-toi » dit-il alors au paralytique. « Prends ta civière et retourne chez toi. » Et l'homme, de se lever... Et du coup, il obéit sans commentaire, il prend son grabat et il part chez lui. À cette vue, la foule fut saisie de crainte et rendit gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Ah oui, guérir instantanément un paralysé, hein, c'est impressionnant. Moi, j'aimerais que ceux qui ont un charisme de guérison aillent à Jeanne Garnier et guérissent des cancéreux. Ah, j'avoue que je serais impressionné, plutôt que des arthroses ou des douleurs. Ça serait impressionnant. Parce que le bureau de Lourdes, lui, quand vous avez une intervention directe de Dieu par création de matière ou matière anéantie, dit, ça, c'est un miracle. Guérison instantanée et définitive d'un mal incurable, sans explication naturelle. Alors, tes péchés te sont remis. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait péché qu'il était paralysé? Punition divine. Vous avez des gens qui sont paralysés, qui n'ont jamais péché. Mais parfois, Dieu envoie une maladie à quelqu'un pour arrêter sa malice et son énergie à faire le mal. Je ne sais pas si ils vont prendre cette parabole impressionnante, pas parabole, cet épisode, où vous avez cet homme qui était depuis 38 ans malade, qui avait du mal à se traîner pour se jeter dans l'eau miraculeuse de la piscine probatique où Saint Raphaël Archange descendait et ça faisait bouillir l'eau, enfin bouillonner l'eau. Et c'est le premier qui sautait dans l'eau à ce moment-là était guéri de quelque maladie qu'il ait. Et lui, ça faisait 38 ans et depuis longtemps, il essayait de tomber dans l'eau à ce moment-là. Et il dit, personne ne me jette dans l'eau, j'y arrive pas. Et Jésus lui dit, eh bien, sois guéri. Et ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas pire. 38 ans paralysé, il peut lui arriver pire s'il pêche à nouveau. Je ne sais pas. Je sais pas. Une lèpre. Enfin, je sais pas. C'est impressionnant ce que dit Jésus. Hein. Donc il y a un lien entre son péché et ses 38 ans de maladie. Hein. Ça rigole pas. Mais, à l'image de Jésus, il y a des innocents qui sont malades et qui souffrent. Donc il faut, comment dire, c'est le livre de Job. Hein. Mais tu as péché. Tu es couvert d'ulcères. C'est épouvantable. Tu souffres atrocement. Dieu te punit. Et là, Job, il dit, non, je n'ai pas péché. Alors les trois amis de Job, tiens, blasphémateur, c'est pas possible, t'as péché pour souffrir comme ça, c'est pas possible, t'as dû avoir, je sais pas ce que t'as fait pour être malade comme ça. Non, je n'ai pas péché. Vous avez un jeune homme qui vient rejoindre les trois amis et qui dit, ah mais certainement, tu ne dois pas être un grand pécheur peut-être, enfin quand même, tu as dû faire quelque chose pour t'attirer ça de Dieu. Non, je n'ai pas péché. Et là, Dieu intervient. Et dit, parce que Job dit, je n'ai pas péché, et c'est épouvantable, Seigneur, arrête cette épreuve, c'est trop fort, tu m'écrases, c'est injuste. Et là, dans le livre de Job, hein, Dieu lui dit, il y a une voix miraculeuse, hein, et les trois amis de Job, et le jeune homme, et Job, et la femme peut-être, entendent cette voix divine. « Dis-moi, tu te plains quand même beaucoup. » Il est là, plein d'ulcères, en train d'agoniser. « Tu te plains quand même. »« Où étais-tu quand j'ai créé le monde ?»« Où étais-tu quand j'ai fait ceci ou cela ?»« Où étais-tu quand je t'ai formé dans le ventre de ta mère, toi qui regrettes d'être né ?»« Vive Dieu. » Voilà. « Toutefois, vous !» Vous avez accusé à tort mon serviteur. Il n'a pas péché. Mais je suis Dieu et je voulais lui envoyer cette épreuve pour le faire grandir en mérite et en amour. Job, prie pour eux, sinon je vais les punir. Oh oui, prie pour nous. Et Job, ah oui, alors il offre un mouton, il offre un sacrifice à Dieu pour ses amis qu'il avait insultés et calomniés. Et là, tout le monde est calmé. Et Job guérit. Mais quelle est la morale de Job? Il sait que Dieu est le maître de la vie et de la mort, et quand il nous met à l'épreuve, on doit quand même croire qu'il nous aime. Dans le livre de Job. Alors imaginez, nous qui croyons, qui avons Jésus, qui lui, innocent, a donné sa vie et a porté nos blessures et nos péchés. Enfin, pour respecter 21h30, je fais simplement la pêche miraculeuse. Un jour, que pressé par la foule qui l'entourait pour entendre la parole de Dieu, Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth. Il vit deux barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, un de ses disciples, et pria celui-ci de s'éloigner un peu du rivage. Puis, s'asseyant de la barque, il instruisait les foules. Donc les gens étaient là, voulaient le toucher, tout ça, mais pas suffisamment courageux pour se jeter dans l'eau. Donc du coup, à cause de des douves, n'est-ce pas, ils étaient là, et Jésus leur parlait du bateau. Saint Vincent Ferrier, lui, quand il prêchait, on l'entendait dans toutes les rues de la ville. C'était miraculeux, hein. Sa voix partait dans toutes les rues. Il était sur la place de la ville, il prêchait, tout le monde l'entendait de l'autre côté de la ville, comme en écho. C'est pas possible. Donc Jésus parle, les gens sont émerveillés, et puis quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Eh bien, partons, parce que le lac de Génézareth est aussi grand que le lac Léman. Le lac Léman, il y a des tempêtes quand le vent souffle fort. » L'eau est démontée. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâche tes filets pour la pêche. » Mais on était le matin, et les pêcheurs de Génézareth ne pêchent que la nuit, car les poissons de Génézareth ne montent à la surface que la nuit. Le jour, ils arrêtent de pêcher et ils nettoient leurs filets. Et là, Simon nous dit, « Bah, c'est pas... » Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. On est en plein jour, ça sert absolument à rien, les poissons sont au fond. Bon, c'est Jésus, donc hop, floups. L'ayant donc fait, les poissons sont poussés par Dieu dans les filets. Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ceux-ci vinrent et on replie les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne de toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Il avait vu le miracle de Cana, il avait vu des miracles, des guérisons. Mais pour lui, si vous voulez, il le vit. Il le vit parce que c'est sa vie depuis des années. Les poissons ne montent pas. Jésus fait venir les poissons. C'est un petit miracle, mais c'est un miracle. La stupeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Vous voyez, c'est comme si je disais, voilà, vous voulez des moutons, que des moutons viennent, et tout d'un coup, vous avez 50 moutons qui arrivent dans le centre bergère. Vous me direz, centre bergère. Mais Jésus dit à Simon, « Rassure-toi, désormais ce sont des hommes que tu pêcheras. » Alors ils ramenèrent leur barque à terre et laissant tout, le suivirent. Même Jean et Jacques et leur père, là, qui était bien... Bon, il était fier que ses enfants soient devenus des pharisiens, qu'ils aient appris au temple de Jérusalem et tout, mais... Régulièrement, ils venaient aider leur père, marin-pêcheur. Je crois que c'est Zébédée. Eh ben non. Là, ils abandonnent la pêche et ils vont suivre définitivement Jésus. Voilà. Et ils vont assister pendant encore 2 ans à tout l'enseignement et les miracles de Jésus. Et nous sommes les descendants de ces hommes, de ces femmes, Les saintes femmes étaient là et s'occupaient des repas, de l'intendance, dans un patriarcat tout à fait assumé. Avez-vous des questions? Puisqu'il est 21h30. Impeccable.
J'ai manqué quelque chose au tout début quand vous avez parlé de saint Paul.
Oui. Qu'il était pharisien et qu'il faisait des tentes, non?
Non, ça je l'ai.
Vous l'avez entendu?
Mais je n'ai pas compris parce que vous avez dit que saint Paul
avait invoqué devant les pharisiens et les sadducéens le fait qu'ils croyaient dans les esprits et la résurrection des morts. Ça, vous l'avez entendu?
Oui. Il y a quelque chose que vous avez dit, je l'ai raté, et puis je me suis dit, mais c'est invraisemblable.
Qu'est-ce qui est invraisemblable? Oui, mais qu'est-ce qui est invraisemblable?
C'était peut-être quand vous avez précisé sur la venue de Jésus, mais pas en même
temps. Ah oui, Jésus... sur le chemin d'Amas, Jésus est revenu en corps et en âme pour convertir saint Paul. Eh bien, l'Église enseigne, jusque dans son catéchisme, que la conversion de saint Paul a été un acte particulier de Dieu, puisque Jésus a fait le miracle spécial de monter vers le ciel. Mais enfin, le ciel, c'est la vie divine, hein, c'est pas le morceau de ciel qui était au-dessus de Jérusalem à ce moment-là, parce que la terre tourne, vous voyez, et ça devient la nuit. Jésus a voulu faire un signe de lumière, mais Jésus, ensuite, il est quelque part actuellement, en corps et en âme, hein, mais personne ne sait où. La Vierge Marie est avec lui, mais on ne sait pas où, mais il est en corps et en âme. Hein. Donc, Jésus... de là où il est revenu vers la terre pour convertir saint Paul et lui apparaître. Encore glorieux, hein, éblouissant. Hein. Saint Paul est là à cheval et tout d'un coup il voit Jésus glorieux. Et je peux vous assurer qu'il a dû être encore plus puissant et glorieux qu'au sur le mont Tabor, hein, où il s'est transfiguré. La vision divine de son âme humaine a transfiguré son corps qui est devenu lumineux sur la montagne du mont Tabor. C'est pour ça qu'on appelle les petits instruments où on met l'ostensoir et la sainte hostie un Tabor, vous voyez, une petite colline. Voilà. Et bien là, il a dû montrer une gloire impressionnante. Hein. Et là, saint Paul est parti par terre. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber face à l'aiguillon. Et là, et il devient aveugle. Et donc les autres, il partait pour Damas pour tuer les gens. Hein. Donc on le met dans une maison, il est là, il est aveugle. Et il réfléchit, il dit Jésus, mais pourquoi, comment? C'est le Messie, je sais plus. Ça a dû vraiment être l'effervescence dans sa pauvre tête. Hein. Et puis là, vous avez Anani, je ne sais plus, enfin un chrétien qui est à Damas. Et là, l'Esprit Saint parle à Anani et dit « Va dans la rue droite ». Donc on sait où était saint Paul à Damas après sa chute de cheval. Hein. « Va dans la rue droite et demande... Saul, et baptise-le. » Et là, il est là et fait « Bien, Seigneur, je vais mourir, donc. Saul, il nous tue tous, et tu me demandes d'aller le voir et de le convaincre et de le baptiser. Ben, je vais le faire, Seigneur. » Et là, le Seigneur lui dit « T'as rien compris, tu verras. Il est devenu pour moi un vase d'élection. » Et donc, Anani va à rue droite. À mon avis, il avait quand même peur. Hein, même si... Et là, il arrive. Je peux entrer? Oui, je veux voir Saul. Saul, c'est bon? Non? Pas de coup de couteau? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, des écailles tombent des yeux de Paul. Et là, c'est Saint Paul.
C'est de là que vient l'expression des écailles
qui tombent des yeux, oui. Et ensuite, il changera son nom. Il a été baptisé Saul, hein, mais il y a un gouverneur romain qui l'a converti, qui s'appelait Paul. Et Saul a changé son nom en l'honneur de la conversion d'un païen, d'un non-juif. Puisqu'il avait dit aux juifs, qui n'arrêtaient pas de contester, tout ça, il a dit, « Bon, si vous ne voulez pas entendre du salut, entendre parler du salut, eh bien maintenant, je vais aux nations, je vais aux gentils, à la gens. Gentil, ça vient de gens, genre, génétique, hein. Ceux qui ne sont pas nés juifs, mais d'une autre génération, les gens, gentes, les gentils. Eh bien, je dirai aux gentils. Et là, les juifs, oh, quoi, tu vas aller prêcher à des non-juifs? Et c'est pour ça que vous avez la grande statue de Saint-Paul à la basilique Saint-Paul hors les murs, où il y a son corps qui n'a pas été touché depuis qu'il a été déposé, hein, à sa décapitation, ou alors il a été déplacé peut-être qu'une seule fois pour le préserver des persécutions, et il a été remis à cet endroit, parce que ça a été sculpté de manière très naïve, Paul Apostole. Mais c'est, les lettres sont vraiment pas les mêmes et tout. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ils ont dû sculpter à la va-vite. Hein, mais la plaque sur la tombe de Saint Paul, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, apostole. Enfin, les lettres sont pas les mêmes, pas même grandeur. Mais c'est le même qui a sculpté. Hein, c'est le même style. Mais enfin, il avait deux mains gauches. Hein, le type. Eh bien, c'est. Mais voyez-vous. Le grand saint Paul, hein, et bien c'est Jésus en personne qui l'a voulu. C'est peut-être pas pour rien non plus quand même que les trois quarts des premières lectures viennent de saint Paul. Et puis alors il a malaxé cette âme. Hein, il est vraiment l'amour de Paul pour l'incarnation et pour Jésus est impressionnante. Hein. Il m'a aimé et il est mort pour moi. Je ne veux savoir qu'une seule chose, c'est Jésus. Et Jésus crucifié. Et saint Paul, là, il est extraordinaire. Et comme Pierre, lui, c'est l'autorité spontanée, mais pas forcément aussi fine que saint Paul, Dieu a voulu associer Pierre et Paul. Et pour qu'il n'y ait pas de dispute d'autorité, on prie toujours Paul avec Pierre et Pierre avec Paul. Dans les oraisons, toujours. Et pour pas qu'il y ait deux églises. Paul, c'est le grand saint. Pierre, c'est le saint, comment dire, plein de fougue et de générosité. Mais qui croit avant Paul, quand même. Paul, c'est à coup de massue que Dieu l'a converti, parce que c'était une âme d'une générosité délirante. Et il dit, j'étais de bonne foi, parce que j'ai le zèle de Dieu. Vous voyez, j'étais de bonne foi quand je faisais emprisonner et tuer les chrétiens. Il était de bonne foi, mais enfin c'était un peu violent. Hein. C'est comme si, voilà, enfin voilà. Alors, vous me dites, saint Paul a été converti à Damas, et peut-être que du coup la ville de Damas a une destinée particulière. Dieu n'est pas vraiment attaché à tel ou tel lieu, hein. Mais il est vrai qu'il y a des prophéties musulmanes qui disent que le combat, plus grands combats vis-à-vis de l'Antéchrist sera à Damas.
Et actuellement, les Syriens.
Si vous voulez, c'est la Syrie est actuellement la clé de la future guerre qui anéantira l'Irak, l'Iran, l'Égypte, et qui fera le grand Israël avec la reconstruction du temple sur l'esplanade des mosquées. Et ça, c'est une opinion. Mais ça commence. Ça a commencé par l'Irak, remarquez, hein, la Babylonie, et Et maintenant, la Syrie, on ne parle que de la Syrie. Alors, on va faire la prière et vous pourrez me poser d'autres questions.